Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec les Neveux de René, une émission pour découvrir les textes classiques de la philosophie. Vous êtes en compagnie de François Baudin, Sylvain Contasso-Vivier et moi-même, Nazim Fattès. Alors, lors des émissions précédentes, nous avions abordé le texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» et nous continuons à en discuter avec Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, né en 1724 à Königsberg, est mort en 1804 dans cette même ville. Voilà. Alors, Anne Bonneau n'a pas pu être avec nous pour raison de santé. On lui souhaite un bon rétablissement. Et puis voilà, on va discuter avec François et avec Sylvain sur la question de l'obéissance, obéissance aux lois, obéissance à la morale, obéissance à la conscience, avec ce texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» et qui, comme nous l'avions vu, propose une réflexion pour, comme le dit Kant, sortir l'être humain de son état de tutelle. Voilà. Alors, la chose sur laquelle on s'était arrêté et interrogé, c'était sur cette fameuse différence que Kant va faire entre usage privé de la raison et usage public de la raison, qui constitue un nœud central de ce texte et qu'il faut éclairer parce que usage privé, usage public chez Kant, tel qu'il l'explique, ne veut pas dire ce que nous voulons, ce qu'on
pourrait penser.
Alors peut-être Sylvain, tu pourrais relire les passages, certains passages, de manière à ce qu'on se replonge dans l'ambiance.
D'accord. Mais je comprends par usage public de sa propre raison celui qu'en fait quelqu'un en tant que savant devant l'ensemble du public qui lit. J'appelle usage privé celui qui lui est permis de faire de sa raison dans une charge civile qui lui a été confiée ou dans ses fonctions. Or, pour maintes activités qui touchent à l'intérêt de la communauté, un certain mécanisme est nécessaire au moyen duquel quelques membres de la communauté doivent se comporter de manière purement passive afin d'être dirigés, en vertu d'une unanimité artificielle, par le gouvernement vers des fins publiques ou, du moins, d'être empêchés de détruire ces fins. Sans doute n'est-il alors pas permis de raisonner. On est obligé d'obéir.
Voilà, alors ça nous avait posé problème. François, alors donc tu veux commenter parce que toi...
Oui. Moi je me suis parfois appuyé sur ce passage pour dire que Kant nous demandait l'obéissance et l'obéissance aux lois, et donc ça pouvait en fait permettre beaucoup de choses. Je rappelle quand même, parce que c'est, on l'avait dit l'autre jour, mais je rappelle que un grand nazi, Eichmann en l'occurrence, quand il est passé en procès plusieurs années après ses crimes à Jérusalem, s'est appuyé sur ce passage de Kant pour dire qu'il était kantien, alors que les nazis brûlaient Kant, bien évidemment. Qu'il était kantien, et c'est en tant que kantien, en tant qu'obéissant, qu'il a obéi aux ordres et qu'il a fini par commettre tous ses crimes.
Oui.
Donc c'est ça le danger de, ces phrases-là. Quand on ne pouvait peut-être pas imaginer que cette phrase allait éventuellement servir à certains pour commettre des crimes.
Voilà. Oui, alors justement, on peut peut-être nuancer ce propos-là en montrant que ce qu'explique Kant, là, c'est que ce qui est important, c'est que les gens puissent obéir pour le bon fonctionnement de la société. Si chacun, entre guillemets, remplit sa fonction dans la société va bien se développer et va bien fonctionner.
Oui.
Mais évidemment, après, il faut que la société elle-même ait un objectif ou un but qui soit effectivement
parce
bon
que
pour tout le monde.
Les nazis étaient aussi pour le bon fonctionnement.
Malheureusement,
c'est eux les maîtres de l'efficacité.
C'est
eux qui l'ont inventé. Le management par objectif.
Oui,
ils ont inventé ça.
Mais ça, ce que tu dis est intéressant, François. Mais ça nous ramène à la question philosophique essentielle, qui est la question qui est posée dès le début de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que le bien, en fait, Oui, mais justement, quand tu dis effectivement... Alors moi, je note deux choses dans ta remarque. Je te donne la parole après. Mais quand tu dis que c'est nazi qui cherchait un bien, etc.,
le bon fonctionnement,
l'efficacité,
de
justement, ce bon fonctionnement, peut se présenter comme un bien alors qu'il n'est pas un bien, mais oui. Premièrement. Mais alors, oui. Deuxième chose, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ça, mais oui. C'est quand même important de faire la remarque. Dans ce que tu dis, je peux aussi remarquer que peut-être que une des choses à méditer, c'est que le nazisme n'est pas seulement derrière nous, il est aussi devant nous. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un événement historique, etc., mais qu'une partie du monde moderne a intégré certaines composantes, si je puis dire,
de ce système-là.
Il est même dans l'actualité.
Oui, il est même dans l'actualité.
Dans l'actualité. Voilà.
Et tu parles du management, sur l'organisation.
Sur les agences d'État, c'est eux qui ont inventé les agences d'État et on en a plein aux États-Unis.
Bien sûr. Alors, beaucoup de choses de cet ordre.
Justement, ce qui va être intéressant avec Kant, ce qu'on peut peut-être aussi mettre en évidence, c'est que lui, il dit, ce qui est important, du coup, c'est l'usage public.
Ouais,
de la raison, parce que l'usage public de la raison permet en fait de critiquer justement ce qui va être fait éventuellement par la société et du coup de pouvoir peut-être l'améliorer et voir la faire changer de direction si effectivement elle va dans une mauvaise direction.
Et effectivement, et je crois que même on pourrait forcer le trait, même si Kant ne le fait pas, de dire que peut-être qu'il devrait y avoir presque un devoir pour le savant, c'est-à-dire c'est pas le tout venant, mais après peut-être on va parler des exemples que donne Kant, mais de faire une critique publique de ce qu'on lui demande de faire. Et peut-être que Kant a pour idée que c'est cet usage-là qui sert de garde-fou, quoi. Mais toi, tu n'es pas d'accord, François, parce que tu as l'air de dire aujourd'hui on est en démocratie et c'est plutôt du cause toujours. Que...
Oui, déjà, voilà. La différencier le savant, déjà.
Oui, le savant.
Le savant.
Voilà.
Bon, alors, on parlait, avant l'enregistrement, on a parlé de Platon et de Socrate qui appellent un esclave, en gros, pour trouver des théorèmes mathématiques. Donc, et on voit bien que même l'esclave est capable de penser. Il n'est pas moins savant que le savant,
tout
que l'expert.
À fait. Alors, ça,
donc déjà,
c'est dans le tête-à-tête de Platon.
Le concept de savant,
pour nos auditeurs.
Le concept de savant lui-même est déjà, c'est en fait le citoyen, tout le monde.
Exactement, ouais, exactement. Ouais. Et c'est pas un savant en tant que statut.
Oui.
Alors, on sait que Kant, en bon héritier du cartésianisme, il pense. Enfin, c'est Descartes qui dit le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Descartes est très sérieux et je pense que Kant se met dans la même disposition, à savoir que tout le monde peut être amené à faire le meilleur usage de la raison et être savant.
Oui.
Mais
je pense ça, oui.
Mais il faut quand même un certain degré d'acquisition du savoir.
Oui.
Peut-être. Une expérience, une certaine expertise.
C'est-à-dire
une critique. Oui. On voit bien, par exemple, on peut tous critiquer des mesures économiques, mais quand même, est-ce que la critique n'est pas plus à entendre, elle a quand même plus de poids si quelqu'un fait des études d'économie ou de politique ou de choses comme ça, ou c'est informé de ce qu'il critique. C'est quand même mieux de s'informer. Et en ce sens-là, on se rapproche du statut du savant.
Du spécialiste, oui.
Oui. Alors, pas spécialiste technique, justement, parce que je rejoindrai François en disant qu'aujourd'hui, on est dans une société gouvernée par des technocrates et des experts,
professionnels.
Ce qu'on appelle experts. Et ça, c'est peut-être un malheur. C'est peut-être un malheur. Mais en tout cas, que le citoyen fasse vraiment un usage bien calibré de sa raison, ça, c'est nécessaire et intéressant.
Oui,
et c'est ce que, sans doute, cherche Kant.
Je pense, oui.
Et d'ailleurs, par rapport à... Tu as cité Platon. Ce qui est intéressant, c'est que le Socrate de Platon dit un peu la même chose que Kant. Il dit « il faut respecter les lois ». Donc ça, c'est assez intéressant. Là, du coup, Kant est un peu dans la même ligne, sauf que effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Kant rajoute justement cet usage public de la raison qui peut éventuellement faire améliorer les lois, faire changer.
En fait, il était condamné à mort
si on voit que la critique est...
parce qu'il corrompait la jeunesse.
Oui. Oui,
corrompre la jeunesse, c'est ne pas respecter les lois, justement. Enfin, corrompre au sens dans la pensée, de la pensée.
Oui.
Donc il y a les deux chez Socrate.
Il y a les deux.
Hein.
Oui,
il y a le respect des lois, de la religion et tout, mais il y a aussi le Socrate un peu plus révolutionnaire, disons. Ça, c'est sûr. Hein.
Est-ce que justement, c'était pas une limite de la raison publique dont parle Kant, qui à l'époque n'était pas acceptée?
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ce que je veux dire, c'est que justement, Socrate remettait en question certains éléments de la société.
Oui.
Donc, est-ce que justement, c'est ce qui a malheureusement été contre Socrate, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'usage public permis dans la société de la raison, enfin d'usage public de la raison.
Je pense que ton exemple est très bon. Je pense que ton exemple il est très bon. C'est exactement ça. C'est-à-dire que de même que Platon a été choqué par la mise à mort de Socrate et s'est dit, alors comment je vais faire pour fonder une cité où les justes ne seront pas accusés injustement ? C'était ça qui fonde sa réflexion. Et je crois qu'effectivement, il y a une lignée comme ça. Enfin, il y a une ligne, il y a quelque chose qui relie ces points-là. Ça, c'est tout à fait correct. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas diamétralement opposé de cette revendication que fait Eichmann du kantisme ? C'est-à-dire qu'on voit bien que quand même, la pensée de Kant, elle est quand même diamétralement opposée de ce qu'on...
Il y a une possibilité dans sa pensée à Kant. Il y a une, sur ce sujet, il y a une possibilité de l'utiliser.
Mais alors,
c'est ça qui fait la faiblesse de ce passage.
Mais usage privé, c'est comme les droits et les devoirs. C'est-à-dire un droit va pas sans un devoir et un devoir va pas sans un droit. Et j'ai l'impression que chez Kant, là dans le texte, qu'est-ce que les Lumières, il a l'air de dire que le fait d'obéir doit s'accompagner par le revers qui est le droit. Bah, il dit pas le devoir, mais presque à la critique. Mais on aurait pu à ce moment dire à Eichmann, mais puisque tu es kantien, il fallait être kantien jusqu'au bout, as-tu à un moment émis une critique à l'égard du régime ?
Non, mais il n'était pas kantien.
Oui, de toute façon.
De toute façon, le problème n'est pas là.
Et c'est pour ça que je dis ça. C'est un hypocrite. C'est l'hypocrisie.
C'est pour faire plaisir aux Allemands et pour faire plaisir à Israël. Il a essayé de se défendre de cette façon-là.
Effectivement, on est d'accord que c'est un hypocrite.
Sauver sa peau, en définitive.
Oui. Tout à fait. Mais c'est en ça que Didi, l'argument...
Il
ne
tient pas complètement.
Il ne tient pas.
Par contre, effectivement, ce que tu dis, ça pose aussi la question, est-ce qu'effectivement, il n'y a quand même pas une certaine fragilité sur le fait que finalement, tout repose un peu sur la bonne direction, la bonne gouvernance ? Est-ce que si le gouvernement, entre guillemets, au sens large ici, enfin au sens vraiment théorique du terme, si le gouvernement de la société suit une mauvaise voie, est-ce que quelque part il n'entraîne pas tout le monde dans sa chute ?
Bien sûr.
Est-ce que c'est pas le sale risque ?
Il ne faut pas oublier que le nazisme, ils ont été élus démocratiquement, sont au pouvoir démocratiquement.
Oui.
Et bon, donc mais dans une situation... dire que notre démocratie est capable d'accoucher de ce monstre, faut le dire. Mais pour revenir encore à Kant... Parce que Kant était quelqu'un qui admirait beaucoup la Révolution française. Dans la Révolution française, dans la première Constitution, la Première République, il y a ce qui s'appelle le droit de résister, le droit de dire non aux décisions qui sont prises. Parce qu'on sait bien que les décisions peuvent être tyranniques, de la loi et tout ça. Et donc il y a cette possibilité pour le peuple...
C'est ça, un contre-pouvoir.
Un droit de révolte du peuple. C'est inscrit dans la Constitution. Parce qu'on sait que le gouvernement peut être tyrannique, il peut être et commettre des crimes. Et c'est ça que Kant ne dit pas. On sait que la chose publique, justement, elle est capable des choses les pires. Donc le droit de désobéir, le droit de dire non. Publiquement et d'être d'être autorisé la possibilité de dire non. Voilà.
Mais la direction dans laquelle Kant cherche à amener, elle est celle d'une bonne harmonie. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va dire aussi vers quoi on pourrait s'orienter pour nos prochaines discussions. C'est ce texte qui s'appelle Que signifie s'orienter dans la pensée, hein. Et que signifie de s'orienter dans la pensée va réfléchir encore plus sur comment je prends les bonnes décisions pour atteindre le souverain bien.
Voilà.
Donc c'est quand même un mouvement très fort que Kant, sur lequel nous amène, mais justement peut-être que ce que tu veux dire François, c'est que dans sa volonté d'aller vers le souverain bien, il oublie aussi le grand mal qui se cache dans l'être humain et qui peut ressurgir à grande échelle. Est-ce que c'est ça que tu souhaites dire ?
Oui, mais
il se fait, je pense qu'il se fait des illusions sur, sur l'histoire.
D'accord.
Il se fait des illusions, il n'a pas analysé ce que Hegel va faire un peu mieux, et Marx après, sur l'histoire.
D'accord.
C'est-à-dire sur les intérêts, sur qu'est-ce que l'État, qu'est-ce qu'un Parlement, qu'est-ce que ça signifie, d'accord. tout ça. Et quels sont les intérêts qu'il représente.
Donc tu penses d'accord. que c'est,
il, cette il se marche, fait des illusions.
Tu veux dire, il est peut-être resté trop théorique, peut-être? Non,
non il est dans sa pensée de révolutionnaire, tel qu'on l'a vu au XVIIIe siècle. Donc c'est un homme du XVIIIe siècle qui
croit en la raison, quoi.
Qui croit aussi au fait que la bourgeoisie est en train d'arriver au pouvoir et qu'elle va libérer l'ensemble de la... De l'humanité et nous apporter la démocratie, le droit et tout ça. Ce qui est vrai, ça apporte le droit, mais ça ne résout pas d'autres questions. Mmh. Et ça porte le risque de devenir des démocraties autoritaires, voire des tyrannies.
Bon. Voilà. On fait une petite pause musicale et puis on reprend la discussion sur ces sujets passionnants.
Chemin de pensée sur RCF.
Nous reprenons la discussion au sujet du texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et donc on parlait partant de cette distinction entre usage public et usage privé de la raison et cette articulation très très forte entre les deux, on peut évidemment pas les séparer. On avait dit que ça nous amenait sur un autre texte du triptyque de Kant qui s'appelle « Que signifie s'orienter dans la pensée ?» Mais François, il y a peut-être aussi ce texte qui s'appelle « Vers la paix perpétuelle » qui peut être intéressant aussi à articuler avec cette idée-là.
Oui, dans le livre publié par Flammarion, Garnier Flammarion, nous donne trois textes qui sont liés. Vers la paix perpétuelle, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est croire. Donc on voit bien, la paix perpétuelle pour Kant, c'est le fait que tous les États se réunissent, discutent ensemble et garantissent que tout est réglable par la parole, on peut le penser, Et donc c'est un peu l'ancêtre de l'ONU qui nous propose, c'est lui celui qui a eu l'idée de cette...
Donc dans cette ONU, il y a l'universalité.
Voilà. Chaque État a quasiment les mêmes droits, mais ça, c'est impossible. Je veux dire, on voit bien que là, c'est l'illusion par la parole, par le fait que les gens se réunissent, les États se réunissent et discutent entre eux et règlent tous les problèmes de la paix, eh bien ça s'est mis en place par le système de l'ONU, ça a mis du temps pour se mettre en place. Il y a eu quand même le XXe siècle traversé par deux guerres avant que l'ONU existe. Mais depuis que l'ONU existe, les problèmes restent toujours.
Les problèmes restent,
l'inégalité reste, et les guerres, surtout les guerres. En fait, donc... Ça ne règle pas la question.
Alors, on est d'accord que rien n'a été réglé, effectivement. Voilà. Mais est-ce que...
Mais c'est pas la paix perpétuelle, quoi.
Et c'est pas la paix perpétuelle, c'est plutôt la guerre perpétuelle.
Oui,
hein, on est d'accord,
grosso modo. Ouais.
C'est plutôt la guerre perpétuelle. Mais justement, que fait-on ? Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'héritage européen qui, justement, s'est imposé à échelle mondiale, a structuré... La structure du... Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire on est quand même embarrassé aujourd'hui. Et cette idée du triomphe de la raison, d'amener tous les peuples à la raison, d'amener les États à la raison, etc. On est d'accord que ça a échoué.
Ça n'a pas échoué.
Enfin, ça n'a pas vraiment échoué.
Non, mais la raison n'est pas suffisante. La raison n'est pas suffisante.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas par la raison qu'on construit la paix, qu'on construit l'harmonie entre les peuples. Parce que on a des bonnes raisons aussi de se battre. On a des très bonnes raisons de se faire la guerre. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, et même souvent des raisons qui peuvent être valables. Donc la raison... Enfin, moi, je ne fonde pas tout sur la raison.
Oui.
Je ne fonde même pas l'homme sur la raison.
Oui, voilà. D'accord. Voilà. Donc, se pose la question sur quoi fonder les choses.
Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr.
Ça devient... Voilà.
Sur quoi fonder la politique, la philosophie et tout ça.
Voilà.
Est-ce que c'est sur la raison? Ça, c'est ma question.
Oui.
Est-ce que c'est sur la raison ou sur autre chose?
Voilà.
Sachant qu'il y a d'autres fondations possibles.
Ça, c'est intéressant.
Ouais. Bah, bien sûr.
Peut-être, est-ce que vous voulez quand même qu'on s'engage sur le prochain texte parce que... une fois qu'on a posé cette question essentielle, peut-être qu'on peut quand même redonner la parole à Kant. Oui. Est-ce que, Sylvain, tu veux lire le début du texte qui s'appelle « Que signifie s'orienter dans la pensée ?» Parce qu'on va quand même essayer de comprendre ce que nous propose Kant dans cette raison. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre que ce n'est pas naïf, c'est quand même un philosophe première envergure. Mm-hmm. Et on va essayer de voir ce qu'il veut nous dire, en tout cas.
Mm-hmm. N'hésite pas à m'interrompre. Si,
parce que d'accord. C'est long.
Si haut que nous placions nos concepts et à quelques degrés que nous fassions abstraction de la sensibilité, des représentations imagées leur sont toujours attachées dont la détermination proprement dite est de les rendre, elles qui ne sont pas dérivées de l'expérience, propres à l'usage expérimental. Car comment devrions-nous conférer sens et signification à nos concepts si ne leur était soumise quelque intuition ? Qui devra toujours être en fin de compte un exemple tiré de quelque expérience possible. Si ensuite, d'une manière générale, nous retranchons de cette opération concrète de l'entendement l'image qui s'y mêle et en premier lieu la perception contingente donnée par les sens, puis même la pure intuition sensible, il ne reste que ce pur concept de l'entendement dont l'étendue est alors élargie et qui contient en tout état de cause une règle de la pensée. C'est de cette façon que la logique générale s'est elle-même constituée. Et maintes méthodes heuristiques de pensée se tiennent peut-être encore dissimulées dans l'usage expérimental de notre entendement et de notre raison. Et elles pourraient bien enrichir la philosophie de maintes maximes utiles, même dans la pensée abstraite, si nous nous entendions à les extraire avec précaution de cette expérience.
Merci Sylvain, merci. En plus, tu n'avais pas préparé cette lecture et tu t'en es bien sorti. je voulais juste dire, voilà. Donc en fait, il nous propose quand même, Kant, dans cet usage de la raison, une espèce de mouvement d'élévation, de partir de notre expérience, mais d'essayer de voir, moi c'est comme ça que je le comprends, jusqu'à quel point elle peut être généralisée, donc d'aller vers l'universel, d'accord ?
De retirer les parties sensibles.
Voilà. Donc moi ça m'est arrivé, c'est quelque chose qui me touche, mais je dois essayer de comprendre comment ça touche les autres êtres humains et essayer de faire quelque chose. Alors, est-ce que ça, par exemple, François, c'est quelque chose à garder ou est-ce
bien
que
sûr.
C'est
oui, bien sûr. Oui, disons. Oui. Là, excusez-moi, mais je vais parler un tout petit peu de Spinoza.
Oui, c'est très bien,
Donc, on a trois connaissances. On a les connaissances de premier niveau, qui est connaissance par les affects, très rapidement dit, et ce qui peut nous donner la joie et en même temps aussi des fois la tristesse. Il y a la connaissance par la raison. Des rapports, comme il dit Spinoza, donc c'est celle de mettre en rapport des choses, donc commencer à penser, à raisonner, à assembler les choses, à les distinguer. Donc ça, c'est la raison. Voilà. Et puis Spinoza imagine un troisième niveau de connaissance. Mm-hmm. Connaissance par l'intuition des choses telles qu'elles sont. Alors c'est, voilà. Donc il faut tout à fait garder et développer cet aspect-là des choses. Mm-hmm. Mais ce n'est pas tout. Voilà, simplement, c'est ce que je voulais dire.
Il n'y a pas que la raison. Et toi, Sylvain, juste pour conclure, est-ce que tu vois un chemin pour fonder quelque chose en dehors de la raison ? Est-ce qu'il faut garder
Alors, ça dépend pourquoi.
Comment tu te situerais
Ce qui est sûr, c'est que par rapport à la discussion qu'on a eue là, sur notamment régler le fonctionnement d'une cité, enfin d'une société, c'est sûr que la raison seule, probablement, ne suffit pas. Parce qu'il y a un rapport humain, justement.
Ouais.
Il y a cette notion. Oui, là, on pourrait rejoindre Pascal, d'ailleurs,
La raison ne suffit pas.
D'accord.
Merci pour vos idées. C'est foisonnant. Il reste encore beaucoup de choses à dire. Voilà, on en est arrivé à poser ces questions essentielles de sur quoi on fonde une société, sur quoi on fonde une politique nationale, sur quoi on fonde un ensemble international. Effectivement, on est dans la guerre perpétuelle, alors il faudrait qu'on se réveille. Et puis, on continuera peut-être à discuter avec Kant ou avec d'autres auteurs pour essayer d'avancer dans cette question. Merci à Dominique Herpelding pour la technique. Et rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des Neveux de René.